Aérobuzz présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui.
Bonjour. Dans son livre de souvenirs, Le destin tient les commandes, Ernst Kegan raconte ses premières heures d'instruction sur DC-2 alors qu'il vient d'intégrer l'école des copilotes de la jeune compagnie American Airlines. Le destin tient les commandes de Ernest Kegan a été publié au Livre contemporain en 1961. Entre toutes les croix que les chefs pilotes doivent porter, figure la présentation aux néophytes de l'appareil qu'il aura à piloter. Appliquant une théorie peu vraisemblable selon laquelle son futur commandant de bord souffrira un jour d'une attaque cardiaque ou sera brusquement frappé de cécité ou de toute autre incapacité majeure, le copilote doit exécuter 3 atterrissages et 3 décollages avant de voler effectivement sur la ligne. Cette épreuve, toujours intéressante, s'effectue naturellement sans aucun passager à bord. À Newark, le chef pilote est le légendaire McCabe, réputé pour sa façon de manœuvrer le temps et les hommes lorsque les uns ou les autres se montrent récalcitrants. Il promène sur mon air de confiance affecté 2 yeux désenchantés qu'on verrait volontiers surmontés d'un casque de centurion romain. Ses lourdes mâchoires masquent mal un menton remarquablement décidé et la charpente de son corps l'apparente à un bloc de ciment armé. Exhalant par ses narines la fumée de sa cigarette tel un dragon en colère, il annonce qu'il me fera personnellement passer un examen sur DC-2, laissant le DC-3 à Boyd, son assistant. C'est un merveilleux matin. Tandis que McCabe hisse sa forte carcasse par la porte, je reste debout dans la contemplation de l'appareil et je cherche vainement à rassembler toute la science qu'on m'a inculquée. Incapable d'imiter l'aisance de mon moniteur, je grimpe derrière lui, m'aidant de mes mains et de mes genoux d'une manière tout à fait significative. Tous les avions de ligne ont cela en commun, qu'à une sollicitation adéquate, ils doivent normalement quitter terre. Cela mis à part, les divers types d'appareils ont une façon très personnelle de se comporter et sont aussi différents les uns des autres que les membres d'une même portée de chiot. Le Stinson A est, par exemple, considéré comme réclamant une main ferme, sinon il a tendance à manifester la traîtrise d'un cobra adulte. Pour cette raison, on l'a retiré de la circulation et personne ne se plaint de le voir moisir derrière un hangar. En comparaison, le DC-3 a la réputation d'une aimable vache qui broute paisiblement dans les pâturages de l'altitude et pardonne avec complaisance au pilote le plus maladroit. Son prédécesseur immédiat, le DC-2, est une bête moins docile, bien qu'à distance on puisse les prendre l'un pour l'autre. Le premier devoir du pilote consiste à connaître sur le bout du doigt les caractéristiques de chaque type d'appareil. Cela ne s'apprend pas dans un bureau. Avec un grognement d'aise, McCabe se laisse tomber dans le siège de gauche et il me lance « Vous apprendrez à aimer cet avion et vous apprendrez aussi à le haïr ». En hiver, vous y gèlerez et vous vous demanderez si ce n'est pas là la plus grande fabrique de glace jamais construite. Vous est-il déjà arrivé, poursuit McCabe, de conduire sur la grande route un attelage de chevaux qui ont décidé de rentrer à l'écurie? À la façon dont il secoue ses mâchoires, je comprends que j'ai droit au numéro classique d'intimidation, exécuté déjà une centaine de fois auparavant. En l'air, vous n'aurez aucun ennui. Il vole assez gentiment, mais au sol, un DC-2 a ses idées personnelles. N'allez surtout jamais vous mettre dans l'idée que vous savez atterrir avec un DC-2. Vous pourriez exécuter avec lui 50 atterrissages à la perfection et connaître au 51e une humiliation dont le souvenir vous poursuivrait durant des semaines. Ce sont des brutes aux pattes raides. Lorsqu'ils se mettent à rebondir, poussez-leur durement le nez vers le sol, sinon vous n'arrêterez pas de galoper jusqu'au moment où vous écornerez une aile ou sortirez carrément du terrain. Je vous prie instamment de vous rappeler cela tout à l'heure, quand nous commencerons à rebondir. Dites-vous bien que nous n'essayons pas de voir qui de lui et nous est le plus fort. J'ai déjà assez de vertèbres tordues comme ça. J'assure ma cape de mon désir sincère de coopération. Nous survolons un moutonnement de nuages lorsqu'il me permet pendant quelques minutes de tâter l'avion. Je me laisse griser par l'aisance de mes évolutions, persuadé que je m'en tire remarquablement bien. Les mains croisées sur les genoux, ma cape a l'air tout à fait relaxée. Il semble avoir oublié jusqu'à la raison d'être de ce vol. Son regard parcourt un hauban de cirrus épandu jusqu'au sud de Philadelphie. On dirait un amateur contemplant l'œuvre d'un de ses peintres de prédilection. Le bleu très profond du ciel se reflète exactement dans ses yeux et la rêverie a débarrassé son visage de toute sévérité. Par quelque miracle, mon premier atterrissage est passablement réussi. C'est tout juste si ma cape doit m'aider, de ci, de là, à maintenir le DC-2 en ligne droite, tandis que nous roulons au sol. Mentalement, je remercie le ciel, et par la même occasion, je tire mon chapeau, avec effet rétroactif, à certains pilotes aux pieds beaux qui m'a, il y a bien longtemps, fait répéter inlassablement des décollages et des atterrissages sur son Ford trimoteur. Ma cape est satisfait, cela se voit. Alors que nous nous apprêtons au deuxième décollage, je me surprends à siffloter d'une façon que je juge être nonchalante. La confiance règne. Le sourire de l'instructeur me douche. Triste et ennuyé, il semble vouloir me mettre en garde contre une assurance excessive due à un coup heureux. Le second atterrissage fait se précipiter les hommes de la tour de contrôle sur leur bouton d'alarme. À dire vrai, on ne peut pas appeler cela un atterrissage, mais une série de collisions coléreuses entre le DC-2 et la Terre, chacune séparée par de furieux grondements de moteur. À côté de moi, ma cape s'acharne à mettre un terme à ce steeplechase. Bondissant à qui mieux, nous traversons l'aérodrome en son entier, et pour incroyable que cela paraisse, l'avion est encore d'un seul morceau lorsque ma cape, après un dernier rebond d'ivrogne, le lance à nouveau vers le ciel. Tandis que nous grimpons vers la sécurité recouvrée, je l'entends marmonner quelque chose où il est question de sa colonne vertébrale et de la profondeur probable des nouvelles brèches que nous venons de faire au terrain de Newark.
À bientôt pour de prochaines lectures.